procureurs généraux sur les narcotiques et les drogues dangereuses.
Pour combattre efficacement ce fléau, il faut que chacun d'entre nous essaie de concevoir et d'imaginer ce qui se déroule dans l'esprit envoûté des toxicomanes. Par exemple, un toxicomane sous l'empire des drogues appelle le mégot un roach, un cafard, disons. Car il y voit un genre de cafard. Or, ce genre de comparaison morbide.
Putain, mais de quoi il parle, ce con-là? Il faut être raide à l'acide pour trouver qu'un joint ressemble à un cafard. Tu te merdes.
Tous les lundis à 21h sur Radio Canu.
Cannabis Circus.
Cannabis Circus.
Cannabis Circus, donc, sur Radio Canu, 102.2 MHz, la plus rebelle des radios. Cannabis Circus, on va vous parler des États-Unis, forcément, puisqu'il s'est passé plein de choses aux États-Unis. Il y a eu des élections.
Oui, il y a eu des élections, en effet, avec des résultats...
Trumpants. Et des légalisations. On n'a pas fait 5 sur 5, 4 sur 5, le cinquième l'a raté de peu.
De peu, ouais.
Donc c'est l'Arizona qui l'a raté. On va vous dire les autres qui l'ont réussi. Dans le reste de l'émission. Hein.
Après, c'est pas dramatique non plus. Hein. La Californie, en 2008, était passée à côté de peu. Et puis, ce coup-là, ça a marché. Quoi.
Donc, voilà, tout à fait. Donc l'Arizona, ils l'ont raté de peu, donc ça devrait arriver.
Aussi, ouais.
Voilà.
Donc ça, le prochain coup, ça va être
bon. En tout cas, on va revenir là-dessus avec les communiqués de presse du cirque, le communiqué de presse...
Ethan Nadelman.
Voilà.
C'est pas très intéressant non plus.
Ouais, on va commencer peut-être par ça. Quoi, on verra bien. Hein. Sinon, après, on ira faire un tour dans un truc français qui s'appelle la Commission nationale des droits de l'homme, qui a donné des avis assez intéressants quand même, en disant qu'il fallait arrêter de pénaliser.
C'est très inattendu, franchement.
Tout à fait.
Et c'est une sacrée bonne nouvelle, ça. Pour nous, ici, dans l'Hexagone. Après, c'est les résultats des élections aux États-Unis aussi, mais proche de nous.
Voilà. Puis après, on reviendra dans le détail d'un petit peu tout ça aux États-Unis, hein, avec quand même beaucoup de choses, les détails qu'on peut acheter, qu'on pourra vendre en Californie, voilà. Des petites choses.
C'est vrai que ce soir, on va pas mal parler de ce qui s'est passé.
Des remarques de certains d'assez intéressantes, de Mark Lehman, entre autres, que j'ai retenu, qui était intéressant. Une légalisation étape par étape pour d'autres. Puis il y aura des petits trucs, on parle un tout petit peu de la France de temps en temps dans les articles. Et puis voilà, on fera un petit peu le tour. On finira par le Canada, qui est très intéressé par ce qui vient de se passer, puisque ça leur donne plus de poids pour leur légalisation, parce que quand même, vu qu'ils vont être contraires à 3 traités internationaux qu'ils ont votés, ça les gêne un petit peu de légaliser le cannabis. Mais bon, voilà, ils auront un petit peu plus de poids grâce à tout ça. Et puis avant de partir en musique, je voulais juste rebondir sur le Canu Info de tout à l'heure, où ils ont parlé d'un petit truc à Lyon qui a eu lieu avec les produits. Il y a eu 5 overdoses dans une boîte de nuit hier et elle a été fermée a priori. Donc soit par le propriétaire, soit par la justice, mais en tout cas elle rouvre pas, et ils cherchent un petit peu d'où ça vient. Donc des produits a priori un GHB ou un autre truc, je sais pas, un peu puissant.
Oui, ça a fait l'objet d'articles dans un journal gratuit, là. Effectivement, j'ai lu ça dans le courant de la journée.
D'accord.
Mais, dans l'article que j'ai lu, il disait pas où ça se trouve, ça s'était produit. Enfin, on sentait que c'était dans la région, mais...
C'était dans une discothèque autour
mais
de
Lyon.
Ouais, Lyon ou autour.
Effectivement, ouais. Mais bon, l'article était assez mal écrit et ce qu'ils disaient à la fin de l'article, c'est qu'ils allaient commencer des enquêtes pour savoir d'où étaient arrivés les produits. Et dans l'article, ils parlaient du GHB et de l'alcool. Alors, je sais pas quel genre d'enquête ils vont mener pour savoir d'où venait l'alcool. Ça, alors là, je... Du bar, vraisemblablement, du bar de la boîte de nuit, mais bon, je sais pas.
Voilà, donc dans les produits, voilà, et ça me permet de justement la Commission nationale des droits de l'homme là, a dit des trucs très intéressants justement avec la prohibition. C'est parce qu'on a les produits, c'est très aléatoire, etc.
Ouais.
d'où des overdoses, comme souvent, puisque souvent d'ailleurs, les overdoses à l'héroïne, c'est quand le produit est trop pur, par exemple, aussi bête que ça puisse paraître.
Bah, quand il est trop pur et qu'on a utilisé tout ce temps avant un produit qui était beaucoup moins. Voilà. Allez, musique, à tout de suite. Leave this place a wreck. The chronic's back in town. In case you haven't checked, we're heavy with sound and deep in a groove. We're hitting the pocket 'cause that's what we do. We're gonna roll this joint. We're gonna roll this joint. The suds, we're gonna roll this joint. Yeah, we got to roll this joint. We're gonna smoke this joint. We'll burn it down to the ground. We come to cut some heads and play that West Coast sound. We got a ice cold cervezas and bomb ass him. Enough rope to hang me, I'm hell bent. We're gonna smoke this joint. Yeah, we got to smoke this joint. Tight skirts are dancing out on the floor. Won't you shake it, baby? I can't take no more. We're gonna smoke this joint. Yeah, we gotta smoke this joint. Let's fire it up, boys. We'll be right back. Alors, on vient de s'écouter...
Roll This Joint.
Eh ? Roll This Joint, ok, yes, d'accord.
Roll This Joint, de Nick Gordon. voilà, c'était pour l'ambiance américaine, puisque voilà, on a le communiqué de presse du cirque avec un titre grandiose, élection américaine, les canapinophiles hilari.
Oui, il faut comprendre le jeu de mots, je suis pas sûr que tout le monde ait compris.
Ouais, c'est donc les canabinophiles sont hilar et iri, donc les voilà. Canaphiles, hilar, ri.
Voilà, par contre, Hilary, elle riait pas à mon avis, quoi. D'ailleurs, on l'a pas vu pendant deux jours après quelle est l'annonce du résultat du scrutin. Je crois que pendant 48 heures, elle a pas vu à la télé et tout. Elle a été dégoûtée. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Alors, on va vous lire le communiqué de presse du cirque, le dernier, là, qui est pas inintéressant. Donc, tandis qu'un obscur acteur de la télé-réalité états-unienne s'apprête à occuper la Maison-Blanche, donc Donald Trump, hein, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, qu'il est un animateur même de la télé-réalité, il faut quand même le savoir. Donc, une majorité d'Américains et d'Américaines a répondu positivement au référendum de 8 des 9 États proposant une réforme des lois sur le cannabis récréatif et ou médical. La question est désormais de savoir si le camouflet subi par le Parti démocrate ne viendra pas compromettre la formidable révolution verte qui s'y produit depuis quelques années. Le pays compte désormais plus de la moitié de ses États où l'usage du cannabis thérapeutique est régulé. Le droit constitutionnel américain suggère alors que cette loi peut désormais s'imposer au niveau national. En ce qui concerne l'usage récréatif, s'il est d'ores et déjà acquis dans plusieurs États, son adoption dans le plus riche et le plus peuplé, c'est-à-dire la Californie, est d'autant plus important qu'il devrait provoquer une réaction en chaîne, un effet domino dans le reste du pays. L'édifice prohibitionniste n'en finit donc pas de se fissurer outre-Atlantique, provoquant un tsunami dont on commence à ressentir les effets en Europe et en France, notamment où la Commission nationale consultative des droits de l'homme, la CNCDH, vient mardi dernier, de dénoncer à son tour l'échec patent de la loi du 31 décembre 70 sur les stupéfiants. Elle s'est ainsi prononcée pour une régulation de la filière récréative du cannabis et une dépénalisation des autres substances illicites pour lesquelles elle suggère une contraventionnalisation de l'usage. Pointant par ailleurs la surreprésentation des minorités visibles, jeunes et populations issues des quartiers populaires parmi les personnes quotidiennement harcelées par la police, la commission évoque également dans son rapport la question des libertés individuelles par la possibilité de pouvoir faire des choix sur son propre corps et sur son mode de vie, je cite les déclarations de la CNCDH, ce dont le cirque se félicite. Pourquoi ? Bah parce que avec le fait de prononcer cette phrase, hein, sur le fait de faire son propre choix sur son propre corps et son mode de vie, sans le savoir sans doute, mais la CNCDH... abonde dans le sens des propositions faites par le cirque il y a déjà 20 ans. Il ne fait plus aucun doute à présent que la question de la prohibition des drogues en général et du chanvre et du cannabis en particulier ne sera pas qu'un simple pis-aller des campagnes électorales à venir. Il s'agit désormais, d'un véritable sujet de société que nos concitoyens et concitoyennes sont tout à fait à même de comprendre dans la mesure, et dans la mesure seulement, je dirais même, où il est abordé sereinement et de façon dépassionnée. C'est un peu ça, à mon avis, le problème. Les associations d'usagers et la société civile qui se mobilisent autour s'y emploient dès maintenant. Voilà. Donc, un peu comme je disais en introduction de cette émission, la déclaration là, de la CNCDH, à mon avis, c'est un petit événement quand même. Hein.
Oui, bah, je te propose qu'on enchaîne un petit peu là-dessus d'ailleurs.
Enchaînons.
Après, et puis on reviendra ensuite sur les États-Unis.
Et les États-Unis,
quoi. Un peu la Californie, un peu. Voilà, on va se promener un peu aux States après. Donc, la CND de la Commission nationale des droits de l'homme, hein. Donc, c'est dans Le Monde, ils disent qu'elle prône la dépénalisation de l'usage du cannabis en France. Cette haute autorité administrative se prononce également pour une contraventionnalisation de l'usage des autres produits stupéfiants.
Oui.
Voilà, donc.
Le cannabis, ouais.
On en parle aussi dans l'Express de la CNCDH, hein, donc recommande de ne plus punir l'usage du cannabis. Voilà, donc c'est quand même une grande institution, hein. C'est une commission. Il y a 64 personnalités et représentants d'organismes issus de la santé, de la société civile, qui ont auditionné une quinzaine de personnes, magistrats, commissaires de police, médecins, sur cette question. Donc ça fait quand même pas mal, hein, là, le constat quand même. Alors là, il est sans appel, c'est l'échec absolu de l'interdit, de l'interdit pénal. Donc au moins, c'est ce qu'on dit depuis un moment, hein, mais c'est, voilà, la prohibition est un échec probant. Et en plus, elle a des effets induits qui sont mauvais, la prohibition bien sûr. Donc voilà, donc en tout cas leur constat, c'est l'échec absolu de l'interdit. Ils rappellent même quelque chose qu'on dit sous d'autres formes et que j'ai bien aimé. La répression ne fonctionne pas et la loi s'applique de façon complètement discriminatoire et inégalitaire selon les publics. On poursuit les usagers de temps en temps et seulement certains, a expliqué à l'AFP donc Christine Lazergue. Et quand on cherche un petit peu, c'est Le Monde, là c'était l'Express, dans Le Monde ils disent les jeunes hommes, y a quand même un jugement inéquitable, et donc ils disent les jeunes hommes, issus des minorités visibles ou les sans domicile fixe, étant selon elles davantage contrôlés et donc plus condamnés que les minorités, que les autres catégories de la population pour ce motif.
Oui, ça fait du bien de l'entendre venant de la CNCDH quand même.
Tout à fait, parce que c'est quelque chose qu'on dit, que cette loi est d'une implication raciste et depuis longtemps.
Discriminatoire.
Et discriminatoire. Voilà, que c'est un instrument de contrôle social en plus, mais bon.
De contrôle social au service du racisme d'État.
Oui, tout à fait. Donc, sinon, dans ce qu'elle disait aussi, elle s'est emparée donc de la question de la légalisation. Et elle dit, c'est parce qu'elle s'est emparée de cette question parce que la loi française de 1970 pénalisant l'usage de drogue interroge, selon elle, plusieurs droits fondamentaux. Et dans ces droits, il y a donc ce qu'on disait, celui de la liberté individuelle. Avec, dans la liberté individuelle, tout d'abord, elle suppose la possibilité de pouvoir faire des choix sur son propre corps et sur son mode de vie. Ce que nous avons repris dans le communiqué de presse. La deuxième chose, c'est qu'on a le droit à un procès équitable. Donc là, c'est toute l'inégalité sur le traitement des affaires, dont on a parlé tout à l'heure aussi, qui fait que, selon les cas, pour un petit joint, on peut être embêté, et pour 10 grammes de hashish, on peut être laissé tranquille. Je prends ces deux exemples justement où en général pour 10 grammes de hashish on commence à être quand même en général embêté et pour un 10 joint on est généralement laissé tranquille, mais ça peut être le contraire dans certains cas, c'est selon qu'on soit riche et puissant ou pauvre.
Dans des milieux, des banlieues, des milieux populaires.
Voilà, hein. La justice sûr, en blanc ou noir, ça n'a pas changé depuis La Fontaine, hein,
J'irais même plus loin. Je dirais que je pense à lui parce que je l'ai entendu dire pour de vive voix à la radio. Mais voilà, c'est gênant parce que on va croire que je m'attaque, que je stigmatise les journalistes, alors que là n'est pas mon souhait. Mais en tout cas, ça fait un peu mal aux oreilles en fait d'entendre un type comme Ardisson reconnaître à une heure de grande écoute sur France Inter à midi et quelques, dire que voilà, il a des habitudes de vie où il essaie de préserver sa santé et consomme là, mais par contre il fume des pétards, c'est du bio, il l'a dit, hein, voilà. Et là, lui, il est pas ennuyé, quoi. Ça, c'est pas normal non plus, sauf que, surtout qu'en plus, quand il explique ça, on comprend que c'est une consommation et une culture même à domicile qu'il entretient et qu'il effectue depuis plusieurs dizaines d'années. N'importe qui aujourd'hui en France viendrait dire ça sur un plateau de télé et serait le Pékin lambda, se retrouve avec une convocation dans un commissariat par un procureur et risque de prendre plusieurs années de prison. Voilà. C'est pas normal. Et donc encore une fois, voilà, cette déclaration de la CNCDH fait du bien.
Donc, il y a un troisième argument, en plus de la liberté individuelle et le droit à un procès équitable. La troisième chose qu'il dit, c'est que la criminalisation de l'usage de produits stupéfiants pousse, a priori, la consommation des drogues dans des environnements insalubres et isolés, ce qui augmente le risque d'infection et de mort par surdose. Donc, tout le volet sanitaire
est renforcé par
la prohibition.
C'est un petit clin d'œil en faveur d'ouverture des salles de consommation, je trouve.
Donc, voilà, dans ce qu'ils disent et qui est intéressant, c'est le statu quo ne saurait être une option envisageable au regard de l'échec du dispositif répressif actuel et de l'indigence des politiques de prévention et de santé publique actuellement en vigueur. Ça répond à la dernière question. Quoi. C'est un rapport qui était assez complet, a priori. Hein. Et via les deux articles, je pense qu'on en a à peu près sorti ce qui était intéressant. Voilà, on rappelle que la mission interministérielle de lutte contre les drogues, elle se prononçait en faveur de la mise en place d'une amende de cinquième classe de l'ordre de 300 euros pour l'usage des stupéfiants. Sans distinguer le cannabis des autres stupéfiants, donc ça prend bien le gouvernement en revers, hein, quand même.
C'est marrant, parce que moi, j'ai pas le souvenir que la MILDEC se soit prononcée vraiment pour une...
Il me semble qu'on l'avait... C'était dans des propositions, il me semble que je l'ai vu passer.
Ouais, je sais pas pourquoi, non, j'ai peut-être raté, hein. Je reconnais que j'ai pu me tromper, mais j'étais étonné de lire ça dans l'article de l'Express, là. Du Monde, pardon. J'ai été étonné.
Voilà.
Le courage de la directrice, la présidente de la MILDEC. Voilà. Mais bon, elle a peut-être eu ce courage-là sur ce point-là. Oui, c'est possible.
Voilà. Il y a Madame Lazerge qui dit qu'il s'agit plus. Il ne s'agit de ne plus voir en l'usager de drogue un délinquant et de traiter la question de la consommation de cannabis comme de la consommation de l'alcool. Elle estime que décriminaliser l'usage du cannabis permettrait de mener une politique de prévention offensive, alors que pour le moment, il y a encore un vrai tabou, la vraie panique des parents ou des enseignants à aborder la question. La vente et la production de cette drogue seraient alors réglementées et encadrées, ce qui permettrait, c'est là que c'est intéressant, permettrait d'avoir un meilleur produit, alors que selon les spécialistes auditionnés par la commission, les produits sont de plus en plus dangereux, plus dosé, et les usagers ne savent pas ce qu'ils consomment. Et c'est quand même, ma foi, assez vrai.
Surtout en achetant du cannabis au marché noir.
Voilà un petit peu. La dernière chose, je crois que les deux articles en parlent, c'est que la CNCDH a quand même dit un truc qui n'est pas super sympa, c'est que cette décriminalisation donc qu'ils appellent permettrait également de réduire la charge imposée aux forces de police et à la justice, voilà. Mais en revanche, ils garderaient quand même les délits en manière d'infraction au code de la route, conduite sous influence et au code de travail. C'est-à-dire que toutes les lois dont on a parlé la semaine dernière, tous les tests salivaires et la loi sur le cannabis, où quand on a fumé, après on n'a pas le droit de prendre le volant, combien de temps après, c'est là, ça peut aller jusqu'à un jour, donc c'est quand même assez terrible.
Voire plusieurs semaines même. C'est ça le souci, il faudrait que là... Enfin, on comprend que effectivement dans le scénario... Il ne prévoit pas effectivement de laisser filer les délits routiers qui seraient liés au cannabis. Par contre, moi, ce que j'aimerais... alors là, à mon avis, je ne sais pas comment le prendre, cette déclaration de la CNCDH. On dirait qu'ils ne savent pas qu'il y a quand même une discrimination entre la pénalisation de la conduite sous alcool et celle sous cannabis.
Bah, quand ça sera légalisé, ça sera le temps pour eux de faire un deuxième avis sur cette question.
Oui,
on leur fera remonter.
Ouais, t'as raison.
On va avancer par étapes quand même. Hein, voilà.
Si tu veux.
Voilà, le CNCDH donc, ne prévoit pas de modifier les délits en manière d'infraction au code de la route. Ah, voilà. Et elle veut aussi conserver les crimes et les délits liés au trafic. Hein. Donc ce n'est pas, ça reste une décriminalisation, quoi, une dépénalisation, et non pas une légalisation, non, même très sûr, contrôlée.
Il ne se prononce pas sur une nouvelle loi, il se prononce juste sur celle qui existe et qui ne va pas, et qu'il faut arrêter d'encaserner les usagers et traiter le problème d'un point de vue de santé publique. Voilà. Elle dit que ça, après c'est déjà beaucoup.
Voilà, qu'est-ce qu'on commence un tout petit peu.
Un peu de musique, moi je dis.
Un petit peu de musique, puis après on se tape les esthètes, tranquille.
Allez.
Voilà, et puis ben, comme les, aux États-Unis, qu'est-ce que je voulais dire.
Le cannabis médical a avancé également.
Tout à fait, ça fait plus de 50% des États.
Un petit morceau.
Voilà, qui s'appelle Medical Cannabis ou Medical Marijuana, pardon.
C'est qui nous chante ça?
C'est Papa Joe Grappa.
Oula, c'est pas nouveau ça.
Oh non. C'était bien ça.
Medical Marijuana.
Papa Joe Grappa.
Ouais, un morceau qui est pas tout neuf.
Ah non.
Mais vraiment pas, qui a au moins 25 ans, quoi, ou 30 ans, je sais pas. Enfin, espèce de morceau country, là, un peu. Qu'on...
Ouais, mais peut-être même plus, mais bon.
Ouais. Donc, comme quoi, cette histoire de marijuana médicale, voilà, c'est déjà dans l'esprit de beaucoup d'Américains depuis un paquet d'années, quoi. Donc voilà, on va maintenant se pencher un petit peu plus sur ces élections américaines. On va pas revenir sur l'élection du père Trump. Qui est-ce qu'elle est ?
Voilà.
Bon, il faut juste pour dire que faut aussi raison garder. Ce qu'on disait à un moment là, en début d'émission, pendant la musique. Hein, voilà, beaucoup de gens pensent que c'est la catastrophe, c'est la fin du monde et tout. Bon, on ne sait pas, peut-être. Mais voilà, juste pour rappeler que quand Reagan avait été élu en 1980, ça avait aussi créé beaucoup de peur, de fantasmes. Il y avait eu beaucoup de manifs aux États-Unis quand Reagan avait été élu, comme pour Trump. Et puis bon, tout le monde prédisait la fin du monde et la Troisième Guerre mondiale avec les Russes. Et finalement, Reagan a joué un rôle quand même assez important pour démilitariser tout ça et mettre fin à la guerre froide. Par contre, Reagan a fait beaucoup de réformes très, très, très mauvaises pour la classe moyenne américaine, qu'il a contribué à détruire. Il a dérégulé beaucoup de choses et il y a eu beaucoup de problèmes sociaux après, qui sont toujours là.
Qu'est-ce que ça serait si tu voulais pas parler de la politique américaine, alors?
Voilà, juste pour dire que, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas eu de Troisième Guerre mondiale et les Russes sont pas allés foutre sur la gueule sur les Américains et vice-versa.
Non, mais là pour l'instant, moi, je crains plutôt que j'étais palestinien ou syrien. Kurde, par exemple, tu vois, je pense que si je suis kurde, je me dis, merde, putain, je pensais peut-être arriver à me tailler un état en Syrie. Là, tu vois, je pense que c'est mort, tu vois. Je suis très pessimiste quand même pour des pauvres petits gens comme ça. Mais tu sais.
Je dis pas que je suis optimiste, hein. En vous disant ça, en disant attention Reagan machin, je dis aussi que Reagan a fait tout un tas de lois et de dispositions antisociales qui, malheureusement, ont aussi contribué à dégoûter les Américains, à faire en sorte qu'ils votent pour Trump aujourd'hui.
Ouais. Allez. Qu'est-ce que t'en penses de dire que, quand même, quels sont les quatre États qui ont voté pour le cannabis récréatif?
On y va.
Parce que depuis le début de l'émission, on les fait marner là-dessus. Hein. On leur a toujours pas dit, on a dit l'Arizona, ils y sont pas.
Non, mais
on n'a pas cité les quatre qui avaient voté pour.
La Californie,
qui a
voté enfin pour. Donc c'était la proposition numéro 64, je crois.
Ouais, je crois que c'est ça.
Comme ça.
Ouais. En tout cas, là, avec la Californie, ouais, on applaudit la Californie.
Voilà, on applaudit la Californie qui avait dit non il y a 8 ans, quand Obama avait été élu en 2008, et Schwarzenegger, en quittant son poste de gouverneur, avait dépénalisé. Mais là, maintenant, ils ont légalisé médical récréatif, voilà. Donc la Californie.
Nous avons aussi le Maine.
Le Maine. Alors, c'est de l'autre côté complètement des États-Unis. Hein. La Californie, peut-être voyez-vous où ça se trouve, c'est sur la côte ouest des États-Unis.
Et au sud ?
Alors attends, côte ouest. Et le Maine, c'est complètement sur la côte est, quasi à la frontière du Canada, là-haut.
Ah.
Voilà, bon, c'est là le Maine.
Ça se passe à côté des autres États qui avaient déjà légalisé, comme l'Alaska et...
Non, de l'autre côté, l'Alaska, t'es à l'ouest. Là, le Maine, c'est complètement à l'est.
Ah, d'accord. Donc ça y est, maintenant, il va y avoir les quatre coins des États-Unis
mais
où
oui,
c'est légalisé.
Mais c'est le cas. Voilà, c'est un peu le cas.
Donc il y a le Maine, donc. Il y a le Massachusetts.
Le Massachusetts, voilà. C'est oui, Boston, oui. Massachusetts. C'est
Boston.
La ville de Boston et dans le Massachusetts.
Donc c'est côte
est,
un petit peu au centre alors.
Non,
hein.
au nord. Le Maine, le Massachusetts, c'est juste en dessous du Maine.
Bon, ils marchent ensemble, alors ça en fait deux là-haut. Voilà. Et le Nevada.
Alors le Nevada, c'est plus proche de la Californie.
Voilà.
Donc là, voilà, là, c'est passé pour le récréatif là-bas, donc dans ces États. Et l'Arizona a failli passer aussi, a failli voter. Ça n'a pas marché, mais bon, ça se trouve dans 4 ans, ça passe quoi. Voilà. Après, il y a des États où ça a changé aussi. Alors autrement, c'est pas pour le récréatif, plus pour des aspects du thérapeutique. Mais on va le voir, c'est très compliqué, hein, finalement.
Ouais. Ouais. Globalement, il y a quand même plus de 50% des plus de 50, plus de la moitié des États plutôt qui ont légalisé le cannabis médical maintenant.
Oui, d'une manière ou d'une autre, effectivement, on peut dire ça. Surtout, quand même, je pense qu'il faut dire. L'info à retenir, c'est que il n'y a plus que 6 États dans tous les États-Unis qui n'ont fait aucune réforme sur leur loi dans l'État, en fait. Seulement 6 États. C'est-à-dire que les 46 autres ont, d'une manière ou d'une autre, fait une
évoluer
réforme
leur
de leur
législation.
Loi. ont revu leur législation sur la marijuana. Mais pas tous de la même manière. Voilà. Oui. Parce qu'il y a des États où, bon, on peut cultiver et acheter. Il y a des États où, non. Il y a des États où on peut juste acheter. D'autres, on peut juste cultiver. D'autres, on peut juste cultiver si on est malade ou juste en acheter. Voilà, c'est... c'est à la carte, quoi, un peu. Selon les États.
Donc, on commence...
Ah, on n'avait pas commencé.
Non, mais on peut continuer, mais non, mais on saute. Sinon, on peut rappeler quand même que ça avait commencé tout ça en 2013 avec le Colorado et Washington. Voilà, donc.
Alors oui, oui, effectivement. Alors ça bon, avait commencé.
On rappelle. Voilà, et après il y avait eu l'Alaska et l'Oregon qui s'y étaient mis pour citer les 8 États qui ont légalisé à ce jour, avec Washington DC. Voilà, donc voilà, c'est quand même la grande info, hein. Ça en fait 4 de plus, ça en fait 8 États américains.
Voilà, où c'est illégal.
Plus l'Uruguay quand même, toujours.
Oui, toujours, oui, dont on parle plus trop là ces derniers mois, un peu poussé par les élections américaines. Mais...
Et bientôt le Canada.
Oh oui, le Canada, c'est...
Ils sont courts.
Dans le courant de l'année 2017, pardon. Voilà, je pense que ça va aussi évoluer.
Voilà, après j'ai un petit article de Courrier International qui dit la marijuana grande gagnante du scrutin. Surtout donc pour la Californie. Hein. Donc elle qui va bientôt s'appeler, au lieu de s'appeler le Golden State, va s'appeler le Green State.
Ou le Ganja State. Oui.
Ou le Ganja State, voilà, avec 12% de la population américaine, un poids économique certain. Où l'industrie de la marijuana joue un grand rôle, et donc, d'ailleurs, ils ont beaucoup travaillé à ce que cette loi passe.
Oui, alors, pourquoi c'est important en Californie? Ben, comme tu disais, effectivement, il y a quand même 12% de la population américaine qui réside dans cet État.
Et le cannabis thérapeutique est légal depuis déjà très longtemps.
Ouais. Enfin, bien implanté, oui.
Voilà, et d'ailleurs, n'importe quel médecin vous fait un certificat, si vous le voulez.
Alors, pourquoi c'est important la Californie? Parce que, ben, comme pour beaucoup de lois en général, quand c'est une loi qui voit le jour en Californie, souvent elle se diffuse dans le reste du pays en fait. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'important. Ce qui pouvait pas arriver avec le Colorado par exemple, qui est pas un état hyper peuplé, mais la Californie, alors là c'est une autre échelle quand même.
Alors, on passe de 5 à 20% de la population, quoi, du coup.
Exact.
Donc c'est vraiment, ça a pris un petit choc.
Un essor, oui, quand même, c'est important. Ouais.
Voilà ce qu'on peut dire. Après, la seule interrogation, on va revenir avec dans d'autres articles là-dessus, c'est avec Trump à la Maison Blanche.
Oui, alors
là,
Trump,
c'est qu'on c'est le contrepoids, mais on va y arriver. On va revenir, je pense, là-dessus. Hein, mais vas-y, si tu veux.
Trump, on ne sait pas bien, hein, parce que Trump, c'est fait mention dans un article, Trump, au début des années 90, il est pour la réforme des lois sur les drogues, et il est pour la légalisation de la marijuana. Donc il avait pris une position un peu libertarienne sur le sujet. Bon, il y a déjà ça. Après, c'est un peu une girouette, Trump. Bon, là, il était présent contre Hillary Clinton pour les élections américaines, donc face à elle, hein, là, la semaine dernière. Mais il faut quand même se rappeler qu'en 2008, lors des primaires des démocrates, Trump a financé la campagne d'Hillary Clinton. Donc, il est un peu partout finalement. Il est un peu là où ça peut l'arranger. Alors, il pensait certainement que Clinton allait battre Obama en 2008, ce qui n'a pas été le cas. Donc je ne sais pas. Voilà. Bon, en tout cas, il avait financé sa campagne. Je n'ai pas entendu dire qu'il l'avait financé cette année, et heureusement il s'est quand même présenté contre elle. Bon, voilà. Après, voilà, ce qui nous fait douter aussi, malgré ses déclarations sur les drogues en 1990, c'est la possible participation à son gouvernement de vieille gloire de la tolérance zéro et de la lutte contre l'insécurité à New York. Donc ça, effectivement, c'est une sacrée question. Je pense principalement à Rudolph Giuliani, qui a quand même été, dans les années 80, sous Reagan, hein, l'un des premiers maires d'une très grande ville à mettre en application la politique de tolérance zéro, avec, alors là pour le coup, une focalisation sur les Noirs, et notamment impliqués dans des délits liés aux drogues. Que Reagan avait fait multiplier par je ne sais combien avec les lois sur le crack. Là.
Et Rudy Giuliani, pour, si tu ne l'as pas dit, va être nommé au poste d'attorney général.
Bah, il est pressenti pour être ministre de la justice, en fait. Quoi.
Voilà, c'est ça.
Et ça, ça craint.
Ça craint un peu.
Bah, ça craint, quoi.
Tant qu'on est dans ce qui craint, un autre, c'est son vice-président, Mike Pence, a fait passer certaines des lois les plus drastiques sur les possessions de cannabis.
Quand il était gouverneur de l'Indiana, ouais.
Voilà. Et dans l'Indiana,
très gros conservateur.
Dans l'Indiana, il rappelle que la possession d'un joint était passible jusqu'à un an de prison.
Comme chez nous, en fait.
Voilà, comme chez nous, actuellement, tout à fait.
Comme en
France. Mais voilà, mais ça n'empêche pas que l'ONG, Marijuana Policy,
se fait la réflexion. Ouais. Enfin,
voilà. S'ils venaient en France, ils hallucineraient un peu, je pense.
Mais il y a des gens qui s'intéressent à la question des drogues en France et qui hallucinent de voir comment on pratique.
Voilà. Sinon, comme tu disais, la situation des 50 États américains est totalement différente de l'un à l'autre.
Oui.
Donc ça, c'est toujours dans Courrier International qu'on trouve ça.
Non, pas du tout. C'est un dessin, une photo de l'Amérique avec découpé par état et par couleur, et donc c'est légende en dessous en anglais que j'ai traduit en français, et je m'aperçois que j'aurais pu mettre les états état par état, et je l'ai pas fait, je suis désolé, mais je connais certains.
C'est pas grave, n'empêche, on rappelle que 6 états n'ont rien modifié dans leur législation.
Voilà, donc 6 états seulement sur 52.
Mm-hmm.
Tous les autres
15 autorisent la possession de CBD,
de
c'est
cannabidiol.
De cannabidiol, uniquement, voilà. De cannabidiol.
Tout à fait.
D'accord. Un État autorise des patients à acheter du cannabidiol. 3 États autorisent les patients à acheter des cannabinoïdes.
Donc également des CBN, par exemple.
Mm-hmm. 9 États autorisent des patients à acheter de l'herbe, mais pas à en cultiver. 3 États autorisent des patients à acheter de l'herbe et certains peuvent en faire pousser. 2 États autorisent les patients à cultiver de la marijuana, mais pas à en acheter. 3 États autorisent des patients à en acheter et à en cultiver. 1 État autorise des adultes à en acheter et les patients peuvent en cultiver. Et enfin, 7 États autorisent tout adulte à en acheter et à en cultiver.
Enfin, 8 même, j'en ai oublié un là.
Non, parce que c'est le 8e, c'est celui où elle autorise les adultes à en acheter et les patients peuvent en cultiver.
Ah oui, d'accord, donc ça fait 8, effectivement. Ouais. Tout à fait. Donc en fait, voilà, finalement, quand on regarde un peu état par état, est-ce qui est possible ou qui n'est pas possible, bah, là on s'aperçoit que c'est vraiment pas simple. Et que ben voilà, même s'il y a effectivement des États qui ont avancé sur ces questions-là, finalement on s'aperçoit qu'il n'y a pas tant d'États. Bon, il y en a quand même 8, hein, on est d'accord, enfin 7 surtout.
Oui, il y en a 8, mais je pense que tu en as peut-être oublié parce qu'il n'y a que 50 États là.
Oui, donc j'en ai oublié quelques-uns. Enfin, c'est dans le. Comment dire, sur le graphique, hein, où ils en ont oublié. Mais en tout cas, oui, voilà, il y a certains États où ils ont déjà avancé. Mais bon, allez pas dans ces États fumer un pétard, vous risquez de vous retrouver en prison, quoi. Même si effectivement, on peut en faire pousser, mais uniquement si on est patient. Donc là, c'est comme dans cet État, là, je ne sais pas dans lequel c'est. Des patients peuvent acheter de l'herbe et certains peuvent en faire pousser. Donc certains malades avec une ou des maladies étant reconnu comme pouvant être traité avec du cannabis médical, voilà, bon, pour ces patients-là, peut-être peuvent-ils avoir l'autorisation d'en cultiver. Mais quelqu'un qui serait atteint d'une autre pathologie, on considérait qu'il y a d'autres traitements aussi efficaces ou plus efficaces que le cannabis, ben, par exemple, ces patients-là n'auraient pas le droit d'en cultiver. Voilà, donc c'est vraiment différent. On ose espérer que s'il y a une loi au niveau national, elle harmonise quand même toutes ces différences entre les États. Enfin, ça, c'est quand même, ça serait pas mal. Sincèrement. En tout cas, pour ce qui est de la Floride...
Moi, je me contenterais quand même que ça évolue déjà, ça serait bien.
Quoi. Oui.
Tant que je ne suis pas dans les 6 États qui n'ont rien modifié, c'est déjà bien.
Regarde, par exemple, on dit que la Floride...
Si je suis dans les 8 qu'on a légalisé, c'est bien.
On parle de la Floride. On parlait de la Floride. La Floride fait partie de ces États où on peut acheter des cannabinoïdes ou du CBD.
Oui. Mais on vient de légaliser le cannabis médical maintenant, en Floride.
Oui, mais quand on regarde la carte avec les couleurs, on s'aperçoit que c'est pas si simple. Et qu'en fait, c'est uniquement une question de cannabinoïdes.
D'accord, il y a aussi l'Arkansas et le Dakota du Nord qui a approuvé aussi
Des petits pas de changement.
Oui.
Mais connaissant les États, un peu, hein, je ne vais pas dire que j'y ai vécu, mais connaissant un peu l'Arkansas et le Dakota qui sont vraiment des États au milieu des États-Unis, vraiment, j'ai envie de dire par les États redneck et bouseux par excellence, ce genre d'avancée dans ces pays... Enfin, encore une fois, quand on voit ça, mais nous en France, on, sur ces questions, on est vraiment à des années-lumière. Hein. C'est ça qui est dingue, quoi. Hein. Parce que voilà. Franchement, le Dakota et l'Arkansas, c'est pas les États progressistes. Hein.
On va passer sur les pourcentages. Hein. On s'en fout de savoir que les Californiens, c'était 56%, que le Massachusetts, c'est 53%. Tout ça, on s'en fout.
Bah, juste, on peut dire que dans les États où la votation a été faite passer, c'est passé,
bien passé
assez confortablement. Hein.
Voilà. L'autre chose dans les points justement quand on est dans les différences, par exemple en Californie, donc la proposition 64 comme on le disait tout à l'heure, la possession va jusqu'à 28,5 grammes de cannabis autorisé et on peut planter 6 plants à la maison pour des adultes donc de plus de 21 ans, puisque alors là-bas la majorité doit être à 21 ans, je suppose. Voilà. Dans le Colorado, il y aura une filière de production légale du produit, ainsi que des points de vente agréés. Donc ça va prendre sans doute un an avant que ça se fasse et les villes pourront refuser certains de ces commerces. Voilà, il sera toujours interdit de fumer en public, interdit de faire de la pub. Voilà.
Il me semble que selon les États, les taxes ne vont pas être les mêmes non plus. La taxation appliquée va être différente.
Ah, sans doute. En Californie, ça sera de 15% a priori.
Voilà. Ce qui est beaucoup, hein, plus qu'au Colorado, je crois.
Je sais pas, en tout cas le Colorado, ils sont contents, ils en sont bientôt à 1 milliard. Donc,
de taxes récoltées, oui.
Donc c'est cool pour eux. Voilà, en tout cas, le prix du cannabis est-il affecté par toutes ces réformes? A priori, il semblerait que oui, qu'il y aurait un prix à la baisse. Mais bon, ça c'est pas sûr, en tout cas 60% des Américains sont pour, en tout cas la légalisation maintenant. Mais par contre, voilà, c'est Mark Kleinman qui dit voilà avec tout ça.
Alors c'est quelqu'un qui est en faveur de la légalisation. Hein,
ouais. Voilà, et il dit si la Californie approuve, cela fera pression sur le Mexique et toute l'Amérique latine pour relancer leur propre débat sur la légalisation. Et après, il dit la légalisation qui est en train de se faire dans le pays n'est pas l'idéal. Et moi, j'ai trouvé ça très 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 intelligent, assez hallucinant venant d'un Américain.
Oui, il est un partisan de la légalisation.
Voilà, et en tout cas, ça rejoint un peu ce qu'on dit souvent. Hein, donc, comme le cannabis légal est un business juteux, l'objectif de l'industrie est de faire des profits sans toujours se soucier des enjeux de santé publique. D'où l'importance de légaliser de façon intelligente, un petit peu peut-être comme va le faire l'État dont on vient de parler, là c'était le Colorado, qui veut faire une filière légale du produit, ou comme l'Uruguay qui a travaillé un an pour voir comment il légalisait, choisir quel plan serait autorisé et le faire, et surtout en évitant que des grosses multinationales viennent, des grands vendeurs de graines ou autres viennent essayer d'y mettre leur
grain de sel. Genre Monsanto.
Voilà, donc Bayer là-dessus, Monsanto, voilà. C'est quand même, Kleinman, je pense. Dit des choses intéressantes et c'est lui qui dit un des problèmes de la légalisation actuellement, donc, aux États-Unis, est qu'elle est en train de faire baisser les prix du produit. Et il met entre parenthèses et que l'herbe est de plus en plus forte, hein, ce qui pourrait encore augmenter le nombre d'usagers quotidiens.
Oui, après, les Américains étant quand même assez réactifs et pragmatiques, j'ose penser quand même que les ajustements peuvent se faire de bonne manière, assez vite. à partir du moment où effectivement il n'y a pas un grand groupe qui met la main sur le juteux business du cannabis et qui fait pression pour que les prix baissent. Voilà. Pour l'instant on n'y est pas, hein. Mais on en a déjà parlé il y a quelques mois. Il y a quand même un certain nombre de directeurs de start-up du cannabis dans le Colorado qui quand même se méfient et savent que les bonnes choses à faire, les bons coups financiers et économiques à faire, bah c'est maintenant, au moment où débute la légalisation, parce que, disent-ils, plus tard, les groupes vont arriver, ils vont tout prendre. Donc voilà, enfin, c'est à voir, toujours.
Voilà, donc un autre article, hein, RTL, Actu, victoire de Trump, et deux points vers la fin de la prohibition du cannabis, point d'interrogation. C'est l'autre résultat de la nuit électorale outre-Atlantique. Plusieurs États américains, et pas des moindres, ont voté pour la légalisation de la marijuana. Ouais, ça, c'était un peu leur titre. Bon, ils rappellent un peu tout ce qu'on vient de dire, hein, sur les nouveaux États, etc. Ils parlent d'une légalisation par étapes. Donc, ils se posent la question, hein, cela signifie-t-il que l'Amérique qui est tout entière va légaliser le cannabis ? Ben, cela en prendrait le chemin, même si cela reste interdit au niveau fédéral. Voilà, il rappelle, voilà, Californie, cannabis à usage médical depuis 20 ans, donc voilà, c'est un petit peu, toutes les étapes sont allées doucement, et maintenant, même dans les sondages nationaux, 60% des Américains donc, se déclarent favorables à la légalisation, donc c'est vrai que ça va avancer, donc ben, y en a pas mal qui sont contents, hein, comme le syndicat de l'industrie du cannabis, qui a financé la campagne pour le oui en Californie, ou comme George Soros, dont on a un petit peu parlé de temps en temps, puisque c'est un des millionnaires ou des milliardaires qui soutient la cause de la légalisation.
Oui, et il soutient pas que ça, Soros. Je trouve que c'est important de souligner. Lui aussi, il est milliardaire. Il est milliardaire comme Trump, mais il soutient des initiatives un peu plus droits de l'hommiste, je sais pas comment dire. Enfin, respectueuse des droits humains. Que Trump, voilà, lui, a pas fait.
Et RTL se posait la question quand même, et la France ? Donc, on va peut-être espérer, hein. Donc, en tout cas, les partisans, est-ce que ça va changer ? C'est ce qu'espèrent les partisans de la légalisation. Bah, nous, ça fait longtemps qu'on l'espère, mais bon. le professeur Dotzenberg, par exemple, prône une légalisation pour contrôler la consommation. Voilà, alors le tabacologue dit que voir la Californie franchir le cas, cela peut aider à sortir du blocage politique chez nous. Voilà, les Américains ont compris que la prohibition ne permettait pas de gagner la guerre contre cette drogue, se félicite de son côté Esther Benbassa. Ce qui se produit aux États-Unis arrive 4 ou 5 ans après chez nous, explique la sénatrice écologique.
Elle est optimiste, c'est beau ça.
Elle avait posé la proposition de loi française pour une légalisation très encadrée. Voilà,
en 2014, au Sénat, elle avait déposé cette proposition.
Peut-être qu'en ayant attendu, on aurait juste une légalisation encadrée. À moins qu'elle devienne très très encadrée, je ne sais pas. Mais je pense que la légalisation va arriver un jour ou l'autre. Dernier article qui arrive sur les États-Unis, qui est très bien fait, qui résume bien les choses, c'est dans Le Monde, donc qui dit donc comment Trump va gérer le mouvement grandissant pour la légalisation du cannabis. Voilà, donc il rappelle avec la Californie, le Nevada, le Massachusetts et le Maine, comme on vous l'a dit, qui ont voté la légalisation, près de 20% des Américains ont légalement le droit de posséder et de consommer du cannabis. Non mais c'est quand même bien, quoi. Il y a quand même près de 20% des Américains qui ont légalement le droit de posséder et de consommer du cannabis.
Oui, oui. Enfin, je ne sais pas si c'est bien. Après, moi, je trouve que ce qui est bien, c'est que c'est des lois qui sont favorables aux droits humains. C'est-à-dire que dans ces États, on ne pourra plus enfermer, mettre en prison des usagers ou des amateurs de cannabis. Ça, je trouve ça que c'est bien. Après, c'est une bonne chose, effectivement. que la loi a été modifiée. Voilà ce que je dirais au niveau du bien et du pas bien.
Ouais. En tout cas, l'article du Monde souffle le chaud et le froid, hein, parce qu'ils attaquent avec la Californie comme leader, la fin de la prohibition du cannabis au niveau national et même international approche rapidement. Bah, c'est cool qu'on entend ça, on se dit c'est cool. Hein,
c'est pas, alors c'est, je te fais une petite parenthèse, c'est pas vraiment dans le Monde, c'est sur la partie blog du Monde. Et c'est un journaliste qui s'appelle Luc Vinogradov, donc c'est pas un article qui est paru dans la version papier, mais en tout cas l'article D'accord. reste intéressant. Ouais.
Voilà, donc ça c'est, je crois qu'il cite là-dedans Ethan Nadelman.
Ethan Nadelman qui est cité, oui.
Qui travaille toujours par la Drug Policy Alliance, l'ONG. Voilà. Donc pour elle, elle voit une victoire monumentale du mouvement dans une réforme sur le cannabis. Hein. Donc en plus, si on ajoute tout ça, l'usage médical en Floride, au Dakota du Nord et dans l'Arkansas, ça fait 25, ça se rajoute aux 25 États autorisant déjà cet usage, donc plus de la moitié des pays est désormais concerné. Donc la tolérance sur le cannabis aux États-Unis n'a jamais été aussi importante et le potentiel d'une légalisation au niveau national jamais aussi proche. Voilà, les sondages sont au fixe, tout va bien de ce côté-là.
Les Américains sont 60% à être favorables à une légalisation, effectivement. Ouais.
Voilà, la prohibition à l'échelle fédérale ne semble plus tenable. Voilà, la légalisation progresse. Mais, sous Obama, jusqu'à maintenant, on en a parlé plusieurs fois, la législation fédérale interdit tout ça. Vous savez, tous les dans les premiers états, les boutiques étaient obligées de se faire payer en liquide parce qu'ils pouvaient pas ouvrir de compte en banque. C'était celles qui se faisaient broquer. D'ailleurs, bon, c'était un peu le monde à l'envers, mais voilà, c'était un peu les problématiques. Et donc, Obama a mis un frein sur la police fédérale, quand même. Et là,
il a fait un peu les deux. Hein, au début de son premier mandat, c'était quand même loin d'être évident et il a retenu, mais pas trop, voire un peu, la police. Puis finalement, à la fin, il a été, oui.
C'est difficile de retenir les chiens, tu sais, de temps en temps. Quand tu tiens des chiens enragés, de temps en temps, tu as du mal. Hein, donc je comprends qu'Obama peut avoir eu un peu du mal.
Je sais pas si tu te rappelles, alors ça remonte à il y a quelques années, mais il retenait quand même la police d'intervenir dans des dispensaires qui fournissaient des malades en cannabis thérapeutique.
Tout à fait,
Oui, effectivement, on est tous conscients qu'il y avait beaucoup de prescriptions et de certificats de complaisance. Mais bon, voilà, il y a quand même eu ça au début du premier mandat d'Obama. Et puis bon, c'est quand même vraiment à la fin où il emmerdait plus personne dans les États. Ouais. Hein.
Donc là, on a changé de président, c'est voilà. Trump.
Donc on ne sait pas.
Donc on ne sait pas, voilà, la position du nouveau président américain sur la question, elle est floue, d'ailleurs, comme sur beaucoup de choses. Mais bon, ça c'est... ça va peut-être être le contraire que celle d'Obama, en tout cas. Il va peut-être lâcher les chiens. Bah, ou en tout cas, lâcher les autorités fédérales.
Ouais. Encore une fois, voilà, on sait pas parce que, je redis, hein, c'est ce qui est dit dans l'article, hein, voilà, en 90, donc, Trump se disait favorable à la légalisation de toutes les drogues. Mais, nous dit-on dans l'article, c'était une position proto-libertarienne qu'il a complètement atténuée, alors d'abord en devenant candidat. Maintenant qu'il est élu, on ne sait pas. Mais encore une fois, moi, j'aurais pas non plus devenir le défenseur de Trump. Mais je vais me faire un petit peu l'avocat du diable en expliquant que quand même, à quelques moments pendant sa campagne, il me semble que Trump a tenu des positions beaucoup plus claires que Hillary Clinton, qui elle ne disait rien sur le sujet et n'a jamais rien dit. Ouais, on l'a très peu entendu en parler. Mais lui, à quelques reprises, alors c'était plutôt au début, genre plutôt entre mai et septembre, après il n'en parlait plus, je suis d'accord. Mais plutôt dans la première moitié de l'année 2016, là, à quelques reprises, alors pas beaucoup, mais il s'était publiquement d'accord. prononcé pour la légalisation.
Ben moi, ce que je te propose, c'est qu'on va attendre janvier 2017. Hein, on va attendre de voir
le mois de mars. Moi,
ou même le mois de mars. On va déjà attendre de voir si c'est bien Rudy Giuliani qui va être au ministère de la justice. On va voir quelle politique il va vouloir mener à ce niveau-là. Donc, on verra en 2017. Je pense qu'on en saura un petit peu plus, mais en tout cas, il y a quand même 8 États maintenant qui ont légalisé aux États-Unis.
Et que c'est une bonne nouvelle.
Ouais, juste pour finir, donc ce qu'on vous disait, hein, c'est les libéraux de Justin Trudeau, donc
au Canada,
qui avait promis donc en campagne électorale l'an dernier de légaliser le cannabis.
Le Canada étant déjà légal.
Ils veulent légaliser où la marijuana, tout en contrôlant strictement l'accès. Donc ils y travaillent. Hein, ils ont commencé à réfléchir sur cette loi et ils trouvent que c'est pas mal. Il y a le professeur Kessler, Kaiser, qui pense que plus il y aura des législatures favorables, plus il sera facile pour le Canada de plaider pour la légalisation, que la légalisation constitue le meilleur moyen de réduire les effets pervers de la marijuana. Voilà, parce qu'on rappelle que le Canada est signataire de 3 conventions internationales qui criminalisent la production et la possession de cannabis. Donc c'est aussi ça qui bloque quand même pas mal les choses.
Voilà, mais il y a quand même un groupe de travail qui planche sur la question au Canada, et dans cet article on nous dit que il pourrait y avoir une proposition de loi au printemps 2017 au Canada.
Et ben là aussi j'espère qu'on fêtera ça en 2017.
Là par contre j'en suis sûr, moi. Je doute pas du tout de ce que les Canadiens vont faire.
Et je pense que voilà, ceci fera peut-être aussi avancer l'ensemble du schmilblick, entre autres pour la prochaine convention de l'ONU, donc qui est prévue, elle, en 2018 ou 2019,
oui.
Sur la problématique des drogues. Et là, peut-être qu'enfin, on aura une légalisation plus ou moins contrôlée du cannabis et une législation plus ou moins contrôlée sur tous les autres produits. Et qu'on sortira enfin de ces prohibitionnistes, de ces prohibitions plutôt absurdes, débiles, contre-productive.
Criminogène.
Et criminelle même,
raciste,
tout simplement.
Discriminante.
Même directement voilà. Criminelle et raciste. Et voilà.
Voilà. Eh bien, alors, on va se quitter, mais avant de nous quitter, on va vous donner un petit peu nos coordonnées. Donc, c'était l'émission Cannabis Circus du Cirque Lyon, que vous pouvez contacter par téléphone au 06 11 53 10 07. Vous pouvez nous contacter par mail, cirque-lyon@no-log.org. Vous pouvez nous écrire également, c'est toujours possible, ça marche, on a une boîte postale. Et en l'occurrence, c'est Cirque Lyon, boîte postale 93 043 69 605, Villeurbanne, Cedex. Et on a aussi un site internet, www.cirque-lyon.fr. Voilà, c'est là-dessus que se termine Cannabis Circus ce soir.
Voilà, et puis n'hésitez
notre ami chasseur de son n'est pas venu.
Voilà, vous pouvez toujours essayer de passer un petit peu avant l'émission, si vous voulez nous rencontrer, on est toujours un peu par là. N'hésitez pas, puis n'hésitez pas à adhérer, parce que vous savez que on est toujours une association, on a toujours besoin d'un petit peu de sous, on a besoin de militants aussi, pour essayer de se renouveler.
On a besoin
les choses, mais voilà, c'est...
Parce que ça changera en France, ça dépend de nous, en fait, le changement aussi, que voilà, si on se mobilise et qu'on est nombreux, eh bien, ça va mieux. Tout de suite,
ça sera plus facile.
Ça sera plus facile, voilà. Donc, on vous souhaite une bonne fin de soirée. Avec la bande continue, malheureusement, chasseur de son n'étant pas là ce soir. Et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Cannabis Circus sur Radio Canu, la plus rebelle des radios, 102.2 MHz. Voilà, bonne soirée à toutes, bonne soirée à tous. Au revoir et merci pour votre fidélité.
Et voilà. Et si vous n'aviez pas de stylo sur vous, et si vous en avez un maintenant, le téléphone c'est le 06 11 53 10 07. Voilà, c'était le Cirque Lyon en direct de Radio Canu 102.2 MHz. Et on vous dit à la semaine prochaine.